Chapitre 68. Richard n'aurait su dire ce qui le stupéfiait le plus. La triste fin de sa statue, ou la charge héroïque de la foule après que Victor se fut déclaré un homme libre. Les citoyens déferlaient sur les gardes, pas assez nombreux pour résister, même s'ils réussissaient à blesser ou à tuer quelques insurgés. Poussés par des milliers de gens en colère, les révoltés du premier rang n'auraient pas pu s'arrêter s'ils l'avaient voulu. À l'évidence, ils n'en avaient pas l'intention. Les frères, les officiels et les gardes restants cédèrent à la panique. En quelques instants, ces fiers défenseurs de l'ordre, quand ils n'étaient pas en danger, se convertirent à une philosophie des plus pragmatiques, chacun pour soi et sauf qui peut. Richard voulait la peau de Narev, mais pour cela il devrait d'abord se débarrasser des gardes qui fonçaient sur lui. Abattant sa masse sur la poitrine d'un idiot qui chargeait comme un taureau, l'épée devant lui, Richard le délesta de sa lame au moment où il s'écroulait, le souffle coupé et le thorax défoncé. Jetant l'outil désormais inutile, le sorcier se prépara à danser avec les morts. En quelques coups, il tailla en pièces une dizaine de soldats qui avaient l'idée saugrenue de vouloir lui barrer le chemin. Mais tuer des gardes ne l'intéressait pas. S'il devait tout perdre aujourd'hui, y compris la vie, il voulait se consoler en entraînant Narev avec lui dans le royaume des morts. Hélas, le guide spirituel de l'ordre s'était volatilisé. En revanche, Richard repéra Victor qui tenait un frère par les cheveux. D'autres hommes l'avaient rejoint et l'aidaient à neutraliser le sorcier, qui semblait avoir du mal à reprendre ses esprits après avoir reçu un coup à la tête.
« Richard !»
cria le forgeron dès qu'il aperçut son ami. Avec ses compagnons, il approcha du sorcier et se campa devant lui.
« Que devons-nous faire du frère ?»
demanda un des hommes. Richard reconnut parmi ses combattants des travailleurs qu'il avait côtoyés sur le chantier. Ishak était également présent, et Priska aussi.
« Pourquoi me poser votre question? C'est votre révolution. Que comptez-vous faire de cet homme ?»«
C'est à toi de nous le dire !»
lança un sculpteur avec qui Richard avait un peu sympathisé.
« Non, la décision vous revient. Mais sachez que cet homme est un sorcier. Dès qu'il se sera ressaisi, il tuera impitoyablement vos amis. C'est une affaire de vie ou de mort, et il en a conscience. Qu'en est-il de vous? Vos vies sont l'enjeu de cette affaire. Le sort de ce frère est entre vos mains.
« Richard, » dit Priska, « cette fois nous aimerions que tu sois avec nous. Mais si tu refuses, nous irons quand même jusqu'au bout. Avec ou sans toi, il faut que les choses changent. »
Tous les hommes brandirent le poing en signe d'assentiment. Victor tira le frère contre lui, lui prit la tête à deux mains et lui brisa la nuque.
« Et voilà ce que nous entendons faire de lui, »
dit-il. Richard tendit la main au forgeron et sourit.
« Je suis toujours heureux de rencontrer un homme libre. »
Alors qu'il se serrait la main, le sorcier regarda son ami dans les yeux.
« Je suis Richard Rall. »
Victor en resta bouche bée, puis il éclata de rire.
« Bien entendu que t'es Richard Rall, nous le sommes tous. Pendant une seconde, j'ai cru que vraiment t'as failli m'avoir, Richard. »
Alors que la foule le poussait vers les colonnes avec ses amis, le sorcier se baissa, prit le cadavre du frère par le col et le traîna derrière lui. Soudain, la terre trembla. Puis un éclair frappa une des colonnes de marbre qui explosa, aspergea la foule d'éclats coupants et fit des dizaines de blessés.
« Qu'est-ce que c'était ? »
cria Victor. Ignorant le danger, les insurgés continuaient d'avancer vers leurs anciens maîtres. À l'endroit où se dressait un peu plus tôt la statue, des gens se baissaient pour ramasser des fragments de l'œuvre. D'autres s'embrassaient les doigts, puis les posaient en passant sur les mots gravés au dos du cadre solaire gisant sur le sol. Ils choisissaient la vie et entendaient le montrer. Les frères et les officiels capturés, un nombre important, hurlaient de douleur tandis que des citoyens déchaînés les battaient à mort avec les plus gros débris de la statue.
« Le frère Narev est un magicien !»
dit Richard à Victor.
« Il faut canaliser cette foule, mon ami. J'approuve le désir de liberté de ces gens. Mais face à un tel pouvoir, beaucoup mourront si nous ne leur imposons pas un minimum d'organisation. »«
Je comprends, »
fit Victor tout en luttant pour ne pas être emporté par la marée humaine. D'autres compagnons du forgeron avaient entendu le conseil du sorcier et ils firent passer le mot autour d'eux. Après un si long esclavage, ces hommes et ces femmes voulaient réussir.
Résolu à atteindre leur objectif, ils comprenaient que ce serait impossible dans un désordre total. Habitués à diriger des équipes, des contremaîtres et des chefs de chantier prirent les choses en main. Richard se pencha sur le frère mort et commença à lui retirer sa soutane.
« Victor, il faut surtout empêcher les gens d'entrer dans le palais. Narev s'y est retranché et il tuera impitoyablement tous les intrus. Truffé de frères, le fief va devenir un piège mortel. »«
J'ai saisi, » dit le forgeron.
« On va s'occuper de ça !»
crièrent plusieurs autres hommes. Richard enfila la tenue du frère mort.
« Que fais-tu donc ?»
lui demanda Victor.
« Moi, je vais entrer. Dans la pénombre, Narev me prendra pour un de ses disciples, et je pourrai m'approcher de lui. »
Richard glissa son épée sous le vêtement.
« Restez loin du fief. Narev est un dangereux magicien. Je dois le neutraliser. »«
Sois prudent !»
dit simplement le forgeron. Les hommes qui avaient décidé de diriger les opérations s'éparpillèrent pour aller prendre leur poste. Puis, ils crièrent des ordres auxquels quelques personnes obéirent. S'en avisant, d'autres les imitèrent, et un semblant d'organisation commença à régner sur l'esplanade. Ce n'était pas trop tôt, car la foule folle des insurgés commençait à devenir dangereuse pour tout le monde. Richard regarda autour de lui et constata que tous les frères et les responsables de l'ordre capturés avaient été exécutés. Autour de la statue brisée, des pèlerins continuaient à ramasser des fragments qu'ils serraient contre leur cœur. En position de choisir la vie, ces hommes et ces femmes avaient accepté ce cadeau. En agissant ainsi, ils avaient montré leur valeur à Richard.
« Mon ami, » dit Victor, « je suis navré pour la statue. »
Un nouvel éclair s'abattit et déchiqueta au minimum une centaine de personnes. Renversée par l'onde de choc, une colonne s'écroula et écrasa d'autres malheureux.
« Nous parlerons plus tard !»
cria Richard.
« Je dois neutraliser Narev. Empêche les gens d'entrer dans le palais où ils mourront tous !»
Victor acquiesça puis alla rejoindre les hommes qui tentaient d'organiser les émeutiers. Richard courut jusqu'au palais, franchit une porte et s'engouffra dans les ténèbres. Dans les interminables couloirs encore inachevés, le sorcier vit des centaines de cadavres carbonisés. Lors de la première charge, les insurgés avaient suivi dans le fief les frères et les dignitaires qui s'y étaient réfugiés. Narev et ses disciples avaient fait un massacre, brûlant indifféremment les hommes, les femmes et même quelques enfants. Longtemps avant d'être le sorcier, puis le seigneur Ral, Richard Cypher exerçait la profession de guide forestier. Pour lui, l'obscurité était une amie et, en cas de danger, il savait en faire une complice. Dans les entrailles du fief, les échos de l'émeute qui continuait sur l'esplanade atteignaient à peine ses oreilles. À travers les plafonds et le toit à demi construit, les rayons de lune parvenaient parfois à déchirer les ombres, y faisant danser des silhouettes plus menaçantes les unes que les autres. Richard vit une vieille femme étendue sur le sol et s'accroupit près d'elle. Constatant qu'elle était blanche comme un linge, il lui posa une main sur l'épaule et la sentit trembler sous ses doigts.
« Où êtes-vous blessée ? »
Il abaissa sa capuche.
« N'ayez pas peur, je suis Richard. »
La femme sourit quand elle le reconnut.
« C'est ma jambe !»
gémit-elle. Elle releva sa jupe, dévoilant à la chiche lueur de la lune la plaie noirâtre qu'elle portait juste au-dessus d'un genou. Avec son épée, Richard coupa l'ourlet de la jupe et en fit un bandage de fortune.
« Je veux vivre !»
dit la femme.
« J'étais venu ici pour aider mes amis. Donnez-moi cette bande de tissu, Richard. » « Maintenant que vous l'avez coupée, je peux me soigner toute seule. Votre statue nous a montré ce qu'était la vie. Merci beaucoup. Je voulais avoir une vermine nommée Narev. Vous le ferez à ma place ?»
Richard s'embrassa les doigts puis les posa sur le front de la vieille femme.
« C'est promis. Occupez-vous de votre jambe, puis attendez que nous ayons la situation bien en main et je vous enverrai du secours. »
Richard repartit. Devant lui, il entendait des cris de fureur et de souffrance. Les gardes qui avaient battu en retraite dans le palais affrontaient les insurgés qui s'étaient lancés à leur poursuite. Dans un coin sombre, il repéra la silhouette d'un frère qui tremblait de terreur.
Ce n'était pas Narev, car l'homme avait la tête couverte par un capuchon, pas un calot.
Jouant son rôle, le sorcier releva sa capuche et approcha du disciple qui parut soulagé de voir un collègue.
« Qui es-tu ? »
demanda-t-il en invoquant une petite flamme de paume.
« La justice !»
répondit Richard. Sans hésiter, il transperça le cœur du sorcier avec sa lame. Puis il la dégagea, l'essuya sur la soutane du mort et la cacha de nouveau sous la sienne. Nietzsche se vengera sûrement de tout ce qu'il était en train de faire, et il ne voyait pas comment l'en empêcher. Dès le début de cette affaire, elle avait été très claire sur ce point. S'il désobéissait, il le paierait. Mais il était déterminé à nuire à l'ordre autant qu'il le pourrait, et la sœur de l'obscurité n'apprécierait certainement pas. Depuis des mois, il cherchait un moyen de ramener Nietzsche à la raison, afin qu'elle se range dans son camp. Parfois, il croyait lire dans ses yeux qu'elle comprenait, mais ça ne durait jamais. Elle avait des sentiments pour lui, il le savait pertinemment. Mais comment aurait-il pu s'en servir pour la convaincre de changer de vision du monde et de briser ses chaînes? Si un moyen existait, il ne l'avait pas trouvé. Entendant des bruits de pas, Richard entra dans une pièce obscure. Quand deux gardes passèrent devant lui, il tira son épée, sortit de sa cachette et décapita le premier. L'autre se retourna prêt à se battre, mais il lui enfonça sa lame dans le ventre. En un effort désespéré, le blessé recula, dégageant l'acier de sa chair. Hélas, d'autres bruits de pas retentirent avant que Richard ait pu l'achever. Dommage pour ce soldat, car une plaie de ce genre impliquait une agonie de plusieurs heures. Richard retourna dans la pièce en faisant assez de bruit pour que les nouveaux venus le suivent. Avec la complicité de l'obscurité, il n'eut aucun mal à tailler en pièces une demi-douzaine d'hommes. Quand on ne savait pas se battre à l'oreille, il valait mieux éviter de ferrailler dans le noir. Quittant la pièce, le sourcier reprit son chemin et se laissa guider par le bruit des explosions. Chaque fois qu'un éclair déchirait les ténèbres à travers les plafonds et le toit inachevé, il se couvrait les yeux d'une main pour ne pas altérer sa précieuse vision nocturne. Les couloirs du palais étaient interminables, et certains débouchaient sur des zones où rien n'était encore construit. Se repérant toujours au bruit, Richard s'engagea dans un escalier qui devait conduire au sous-sol du fief. Arrivé en bas, il traversa une enfilade de petites pièces, souvent en passant à travers les trous des cloisons incomplètes, puis déboucha dans un grand couloir. Apercevant une silhouette qui brandissait une épée droit devant lui, le sourcier s'immobilisa. En principe, aucun des insurgés n'était armé. L'homme leva son épée et se mit en garde. Richard étant déguisé en frère, pourquoi cet idiot voulait-il en découdre avec un allié? À la faveur d'un éclair, le sourcier vit que la garde de l'épée de vérité dépassait de derrière l'épaule gauche de son adversaire. Ce n'était pas un homme, et encore moins un ennemi. Callan se dressait devant lui. Et elle pensait avoir affaire à un des disciples de Narev. Derrière sa bien-aimée, Richard aperçut une autre silhouette qui courait vers eux. Et là, il s'agissait de Nietzsche. En un éclair, le sourcier comprit ce qu'il devait faire. C'était sa seule chance de recouvrer sa liberté et de mettre Callan définitivement hors de danger. Le plan qui venait de germer dans son esprit le terrifia. Serait-il assez fou pour prendre un tel risque? Avait-il vraiment mesuré tous les dangers? Aucune importance. Il devait agir ainsi. Au lieu de lui crier d'arrêter, Richard laissa Callan porter la première attaque. Après l'avoir parée, il passa à la contre-offensive. Bien entendu, il retint ses coups pour ne pas risquer de blesser sa femme. Par bonheur, il savait presque tout de sa façon de manier l'épée puisqu'il la lui avait en partie enseignée. En maître de la lame, il joua le rôle d'un escrimeur pas très adroit mais sacrément chanceux. Nietzsche n'était plus très loin. Richard ne devait pas faire traîner les choses, mais le minutage avait intérêt à être précis. Attendant que Callan soit en léger déséquilibre vers l'avant, il porta un coup très violent qui percuta l'arme de sa femme au niveau des quillons et la lui arracha de la main. Callan cria de douleur à cause de la puissance de l'impact qui se répercutait sûrement dans tout son bras, puis elle tourna sur elle-même tandis que sa lame volait dans les airs. Exactement ce que voulait Richard. Sans hésiter, en pleine pirouette involontaire, l'inquisitrice lança la main droite derrière son épaule et dégaina l'épée de vérité. Dans l'air retentit la note métallique si particulière que Richard connaissait tellement bien. Callan se fendit, l'âme pointée. Dans ses yeux, le sourcier vit briller une fureur qu'il n'eut aucun mal à identifier. C'était la colère induite par la magie de l'arme. Il en eut le cœur serré, car il savait mieux que quiconque quel tourment devait endurer sa bien-aimée. Plongeant au plus profond de lui-même, où aucune émotion ne venait troubler son calme intérieur, le sourcier passa à la dernière phase de son plan. Contrôlant les attaques de Kalan, il dévia tous les coups qu'elle portait en hauteur, la guidant subtilement vers la cible qu'il voulait la voir frapper. S'il voulait avoir une chance de s'en sortir, il fallait être précis. Les dents serrées, Kalan s'engouffra dans l'ouverture qu'il lui laissa délibérément. L'inquisitrice n'avait jamais été dans un tel état de fureur. Dès qu'elle avait saisi sa garde, l'épée de vérité lui avait communiqué son inextinguible colère. À l'idée de tuer quelqu'un avec, Kalan exultait, et comme elle, l'arme magique avait soif de sang. Ces gens détenaient Richard, et les frères, les véritables conspirateurs de l'ordre, avaient gâché leurs deux vies. Dans les contrées du milieu, les hordes de Jagang massacraient des innocents, et un tueur envoyé par l'empereur avait assassiné Warren. Mais elle allait pouvoir se venger sur un des responsables. Elle cria de rage, exaltée à l'idée de traverser avec sa lame la poitrine d'un des monstres coupables de tous ses crimes. Le frère fit une erreur, lui laissant une ouverture. Kalan n'aurait pas besoin d'une deuxième chance. Richard sentit la lame s'enfoncer dans sa chair. Il fut surpris car cela ne ressemblait pas à l'expérience qu'il s'attendait à vivre. Au lieu d'un déchirement, il eut l'impression qu'une masse énorme s'écrasait sur son ventre, un peu ce qu'avait dû éprouver sa statue quand il l'avait frappée. Il ouvrit la bouche pour parler. C'était le moment, car il devait empêcher Kalan de tourner la lame dans la plaie. S'il n'intervenait pas et qu'elle lui dévaste les entrailles, Nietzsche ne pourrait pas le guérir parce que son pouvoir avait des limites. Pour utiliser sa magie, la sœur de l'obscurité devrait neutraliser le sort de maternité. Il avait parié qu'elle l'aimait assez pour agir ainsi. Mais pour l'instant, la lame s'enfonçait toujours, et il était incapable de parler. Même s'il avait prévu d'être blessé, le choc le paralysait. Il devait dire à Kalan d'arrêter, lui révéler que c'était lui qu'elle tentait de tuer. Au minimum, il fallait qu'il réussisse à crier son nom. Mais aucun son ne consentait à sortir de sa gorge. Alors qu'elle cherchait Richard, Nietzsche avait vu deux silhouettes s'affronter. Un frère et quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui lui semblait étrangement familier. Elle avait également éprouvé un curieux sentiment. En temps normal, elle l'aurait identifié, mais là, elle avait autre chose en tête. L'homme vêtu d'un manteau avait perdu son épée. À l'évidence, le frère allait le tuer. Nietzsche aurait voulu intervenir, mais pouvait-elle se permettre de perdre du temps? Quelqu'un lui avait dit que Richard était à l'intérieur du palais, et elle devait le trouver. Devant elle, l'inconnu venait de dégainer une seconde lame accrochée dans son dos. Quelque chose ne collait pas dans tout ça, mais Nietzsche ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. Puis le frère avait commis une erreur grossière. En profitant, son adversaire lui avait enfoncé son arme dans le ventre. Subjugué par la douleur, le frère avait incliné la tête en arrière, exposant son visage à la pâle lumière de la lune. Alors, Nietzsche avait tout compris et hurlait de terreur.
« Kalan, arrête !»
parvint enfin à crier Richard. L'inquisitrice se pétrifia, puis vit enfin le visage de son adversaire. Au même instant, Richard entendit le hurlement de Nietzsche. Kalan recula, lâchant la garde de l'épée de vérité comme si elle lui brûlait la paume. Richard saisit la lame de l'épée, son épée, pour la stabiliser et éviter qu'elle lui déchire les entrailles en s'inclinant vers le sol. Kalan n'avait pas frappé doucement. La lame était enfoncée presque jusqu'à la garde et un geyser de sang jaillissait entre les doigts du sorcier.
« Richard !»
cria Kalan.
« Non !»
Le sorcier se laissa tomber à genoux. Il n'aurait pas cru qu'avoir une épée dans le corps faisait si peu mal. C'était le choc, pas la douleur, qui lui avait embrouillé l'esprit.
Dans un tel moment, il était difficile de penser clairement. Pourtant, il restait assez lucide pour s'efforcer de ne pas basculer en avant, sinon l'épée risquait de provoquer des dommages irréversibles.
« Retire la lame !»
souffla-t-il. Il voulait qu'elle lui enlève cette affreuse chose du corps, même s'il se souvenait que c'était terriblement dangereux à cause des risques hémorragiques, il refusait de sentir plus longtemps en lui un objet étranger. Paniqué, Kalan s'agenouilla, saisit la garde de l'arme et tira, comme si elle espérait, en agissant ainsi, réparer ce qu'elle avait fait.
« Qu'est-il arrivé ? »
cria Kara en émergeant des ombres.
« Qu'avez-vous fait ? »
Alors que le monde tournait follement autour de lui, Richard sentait son sang imbiber de plus en plus ses vêtements. Kara le prit par les épaules pour le soutenir.
« Richard ! »
s'écria Kalan.
« Par les esprits du bien, ce n'est pas possible. Une chose pareille ne peut pas arriver. »
Le sourcier se demanda vaguement ce que sa femme faisait dans l'ancien monde. Comment était-elle arrivée dans les sous-sols du palais de Jagang ? Malgré son hébétude, il parvint à sourire à sa bien-aimée. Avait-elle vu la statue avant qu'il la détruise ? Était-elle... Non, toutes ces questions n'avaient plus d'importance. Ce qui comptait, c'était son plan qui... Un si bon plan que ça, tout bien pesé ? Oui, parce que c'était la seule chance de libérer Kalan de l'emprise de Nietzsche, qui arrivait enfin.
« Nietzsche, aide-moi !»
croassa Richard. « Il faut que tu me sauves, je t'en prie, Nietzsche. » Même si la voix du sourcier n'était plus qu'un murmure, la sœur de l'obscurité entendit sa supplique. Nietzsche n'avait jamais couru si vite de sa vie. Devant ses yeux, Kalan avait transpercé le ventre de Richard, une véritable horreur. Avec ses absurdes machinations, Nietzsche avait attiré le malheur sur la tête de deux innocents. Tout était sa faute. Mais elle avait un moyen de se racheter. Guérir Richard était possible. Kalan étant à proximité, pour une raison qui dépassait l'entendement de Nietzsche, neutraliser le sort de maternité ne risquerait pas de la tuer. Son pouvoir revenu, elle soignerait Richard. Oui, elle allait le sauver, tout irait bien. Ce drame ne serait plus qu'un mauvais souvenir. Pour une fois, elle allait agir dignement et aider pour de bon deux personnes qui le méritaient. Alors qu'elle approchait du couple, un bras s'enroula autour de sa gorge et son agresseur l'entraîna dans une pièce obscure. L'homme était musclé et il empestait. Heureux de changer de résidence, ses poux sautaient déjà sur la tête de la sœur de l'obscurité. La terreur la paralysa. N'ayant plus eu peur depuis des décennies, Nietzsche en perdit toutes ses facultés mentales. Elle se débattit d'abord comme une idiote, puis pensa au dacra glissé dans sa manche et tenta de l'en faire sortir. Devinant le danger, l'homme lui saisit le poignet et lui retourna le bras dans le dos. Puis il la frappa à la gorge, lui coupant le souffle et la souleva de terre. Incapable de respirer, Nietzsche dut se laisser porter par son agresseur dans le dédale de couloirs obscurs des sous-sols du fief. Juste avant que quelqu'un l'attaque, Richard avait eu le temps de croiser le regard de Nietzsche, et dans ses yeux il avait lu qu'elle allait le secourir. Mais elle n'était plus là. De plus en plus faible, le sourcier se laissa tomber contre la poitrine de Kara. Les mains de la mort de Sith lui semblaient brûlantes, sans doute parce que sa propre peau était déjà glacée. Portant les mains à sa gorge, Kalan recula en titubant, elle ne pouvait plus respirer.
« Mère inquisitrice !»
cria Kara.
« Que vous arrive-t-il ? »
Richard parvint à saisir la mort de Sith par la nuque, et il la força à tourner la tête.
« Quelqu'un a attaqué Nietzsche, et doit tenter de l'étrangler, Kara. Il faut la sauver, sinon Kalan mourra, et moi aussi, parce que personne d'autre pourra me guérir. Dépêche-toi !»
Kara hocha la tête.
« J'ai compris. »
dit-elle tout en déposant doucement son seigneur Ral sur le sol glacé. Puis elle partit au pas de course. Richard sentit de l'humidité dans son dos. Parce qu'il y avait de l'eau par terre ou à cause de son sang? Grâce à la lumière qui filtrait du plafond encore en cours de construction, il apercevait Kalan occupé à lutter contre un ennemi invisible. Elle aussi gisait sur le sol détrempé, car c'était de l'eau, pas du sang. Avec la proximité du fleuve, il semblait logique que les sous-sols soient inondés.
Callan, accroche-toi, je t'en prie. »
La jeune femme ne répondit pas. Les mains serrées sur sa plaie, pour empêcher ses entrailles de s'en échapper, Richard rampa dans l'eau croupissante. Désormais, la douleur l'avait rattrapé et chaque mouvement le mettait à la torture. Il battit des paupières pour chasser de ses yeux les larmes de souffrance et la sueur glacée qui ruisselait de son front. Il ne devait pas baisser les bras. Et Callan, comme lui, n'avait pas le droit d'abandonner le combat. Tendant une main poisseuse de sang, Richard parvint à prendre la main de sa femme, qui bougea les doigts pour lui faire sentir qu'elle vivait toujours. Aucune nouvelle n'avait jamais autant soulagé Richard. Son plan était bon, il l'aurait juré. D'ailleurs, il avait fonctionné. Sans ce qui était arrivé, Nietzsche, tout serait rentré dans l'ordre. Oui, c'était vraiment un bon plan. Et maintenant, Callan et lui allaient mourir absurdement dans les sous-sols humides d'un palais. Pour eux deux, il avait toujours rêvé d'une fin plus grandiose. Il fallait qu'il dise à Callan qu'il l'aimait, et qu'elle ne l'avait pas tué parce qu'il avait manigancé tout ça. Pour la sauver et se sauver aussi, il avait imaginé un plan qui... « Callan !» souffla-t-il, ignorant si elle l'entendait encore. « Je t'aime. Je suis heureux de tout ce que nous avons vécu ensemble. Et je n'échangerai contre rien au monde ces moments-là. » Émergeant du néant, Richard ouvrit les yeux et gémit de douleur. Il avait sombré dans une bienheureuse inconscience, mais c'était terminé. À présent, il voulait que ça s'arrête. Il soufflait trop, et seule la mort lui semblait désirable. Son foutu plan n'avait pas marché, et il devrait en payer le prix. Mais l'agonie ne pouvait pas-elle être plus rapide? Combien de temps était-il resté inconscient? Il n'en savait rien. Près de lui, Callan ne bougeait plus. Soudain, une ombre voila la pauvre lumière de la lune.
« Mais c'est Richard Cypher !»
s'écria le frère Neil.
« Quelle heureuse coïncidence ! Puis-je savoir qui est la femme qui gît à tes côtés ?»
Dans sa torpeur, Richard sentit la magie de l'épée de vérité qui devait être tombée non loin de là. S'il pouvait tendre la main...
« Je n'en sais rien, » souffla-t-il. « Un des vôtres, puisqu'elle m'a embroché. »
« Oui, l'arme était là à portée de ses doigts. Il ne lui restait plus qu'à...
« Non, non, tu ne l'auras pas !»
dit Neil en posant un pied sur la lame.
« Tu as déjà provoqué assez de troubles comme ça !»
Une lueur blanche crépita autour des doigts du sorcier. Un sort mortel en préparation. À peine conscient, Richard était dans l'impossibilité d'invoquer sa propre magie pour se défendre. Bizarrement, il ne s'en lamentait pas. Au moins la fin serait rapide. Et Callan, si elle survivait, ne devrait pas vivre avec l'idée qu'elle l'avait tué. Un bruit d'os brisé déchira le silence. Neil tituba et tomba à genoux. Refermant les doigts sur la garde de l'épée de vérité, Richard la tira dessous les jambes du frère et la lui enfonça dans le cœur. Neil baissa sur sa poitrine des yeux déjà vitreux. Apparemment, il était au bord de la mort avant que la lame lui ait traversé la poitrine. L'homme qui ne succéderait jamais à Narev s'écroula sur le côté tandis que Richard dégageait sa lame. La femme que le sourcier avait aidée se tenait derrière Neil. Sa jambe bandée, elle brandissait encore la main brisée de la femme de marbre sculptée par Richard. C'était avec cette arme improvisée qu'elle avait fendu le crâne du frère Narev.